France Culture.
À voix nue. Aujourd'hui, Mario Vargas Llosa s'entretient avec Gérard de Cortanze. Premier entretien.
Mario Vargas Llosa, vous êtes né à Arequipa, au Pérou, en 1936. Vos parents ont divorcé avant votre naissance. Vous dites de votre père, « Je l'ai connu très tard, j'étais convaincu qu'il était mort. Quand je l'ai découvert, il n'y avait plus de possibilité de communication entre nous. » Quelle image, aujourd'hui, avez-vous conservée de votre père et de votre mère?
J'ai connu mon père quand j'avais 10 ans. La relation a été très difficile. Il était très différent de ce que j'aurais voulu. J'avais été, comme enfant, très gâté par ma mère et ma famille maternelle. Lui, il était un homme très sévère. Il a imposé son autorité sur cet enfant gâté que j'étais. Et alors, la relation était très, très difficile. J'ai ressenti beaucoup, n'est-ce pas, cette personnalité autoritaire. Dès que je l'ai connu, mon enfance est devenue très différente de ce qu'elle était jusqu'alors. Elle est devenue plutôt douloureuse. Je me suis senti très opprimé par cette présence écrasante. Mais à la distance, quand j'ai fait les balances, je dois reconnaître que je dois à mon père beaucoup de choses et peut-être ma vocation d'écrivain. Il avait été très inquiet quand il a découvert que j'aimais la poésie, que j'écrivais des poèmes. À l'époque, et surtout pour quelqu'un comme lui, un poète était quelque chose d'excentrique. C'était probablement un raté, n'est-ce pas? Peut-être même un homosexuel. Alors ça l'a beaucoup inquiété. Et je crois que c'est la raison principale pour laquelle il m'a envoyé au collège Leoncio Prado, qui était un collège militaire, où j'ai passé deux ans très importants pour moi, parce que quoique j'ai beaucoup souffert dans l'internat militaire, j'ai beaucoup appris aussi sur le Pérou, sur la vie. Et pendant ces deux ans-là, j'ai eu les expériences qui m'ont permis d'écrire mon premier roman, La ville et les chiens, qui est un roman inspiré, disons, dans les expériences de ce collège militaire.
Mais avant de parler du collège militaire, on y reviendra tout à l'heure. J'aimerais que vous me parliez de la ville de Piura. C'est une ville dans laquelle vous allez, vous passez une partie de votre enfance entre donc votre mère et vos grands-parents. C'est une ville qu'on retrouve tout au long de votre œuvre. Elle figure dans les Caïdes, dans la Maison Verte, dans Pantaléon et les Visiteuses, dans Qui a tué Palomino Molero. Mais ce n'est pas une ville imaginaire, ce n'est pas Macondo.
Non, pas du
tout.
Elle existe, elle est une ville située au nord du Pérou, près de la frontière avec l'Équateur. C'est une ville entourée de déserts, de sables. C'est une ville que j'ai connue quand j'avais 10 ans, c'est-à-dire quand ma famille maternelle est retournée au Pérou, parce que mon grand-père a été nommé préfet de Piura. Et alors, à l'époque, j'ai vécu là une année, et suis retourné après, en 1952, quand j'avais 15 ans, et j'ai passé une autre année, c'est-à-dire en tout, 2 ans. Mais, curieusement, ces 2 ans-là m'ont marqué comme peu d'autres expériences dans ma vie. La ville de Piura, les paysages de Piura, les gens de Piura ont toujours survécu hein, dans ma mémoire. Et ils sont devenus, avec le temps, des extraordinaires encouragements hein, pour la fantaisie, pour l'imagination. Et c'est pour ça que j'écris beaucoup des romans, des pièces de théâtre situées à Piura, par la force et la persistance de ces souvenirs dans ma mémoire. Quoique j'ai vécu seulement 2 ans dans toute ma vie à Piura.
Mais en même temps, vous dites de la bourgeoisie de cette ville, vous avez une phrase terrible, vous dites, c'est une classe absolument nuisible, pourrie de préjugés, ignorante et hypocrite.
J'ai parlé de la bourgeoisie péruvienne en général, pas seulement de celle
pas de
Piura.
Oui.
Non, non. Oui, c'est-à-dire, quand j'écris ça, j'étais très jeune, alors la véhémence des adjectifs, hein, il faut l'attribuer à la jeunesse. Mais je suis toujours très critique de la bourgeoisie, de la soi-disant élite péruvienne.
Qui vous a pensez été... que cette élite, que cette bourgeoisie a changé depuis 40 ans, entre 1950 et
pas
aujourd'hui
beaucoup, pas beaucoup, malheureusement. Ils sont toujours, très peu, peut-être moins nombreux maintenant qu'ils étaient, ça fait 30 ans, parce que l'appauvrissement du pays a été tel que la classe aisée s'est réduite considérablement. Mais les familles de cet secteur de la société péruvienne sont toujours très ignorants, très indifférents à la culture, très égoïstes aussi. La preuve, n'est-ce pas, c'est l'état catastrophique d'une société péruvienne après plus de 150 ans de vie indépendante où cette classe sociale a eu pratiquement le contrôle total de la vie nationale.
J'aimerais qu'on revienne quand même sur la question du collège de Leoncio Prado. Mm-hmm. Tu y restes...
2 ans.
2 ans. Et
1950 à 1951, quand j'avais 14 et 15 ans.
Et c'est là, dis-tu, que tu as acquis une certaine image de l'homme dont je ne suis pas prêt de me débarrasser.
C'est vrai. Comme je t'ai dit, j'avais eu, n'est-ce pas, une enfance très gâtée jusqu'à... à ma 10e année. Et jusqu'à mon entrée au collège militaire, j'avais eu la vie d'un garçon de la bourgeoisie liménienne, c'est-à-dire une vie assez protégée, assez isolée du reste du Pérou. J'ai connaissé un pays qui était un pays très petit et très restreint. Hein. C'est un pays de classe moyenne, un pays où on parlait l'espagnol, où les gens étaient ou des blancs ou des métis. Mais j'ignorais tout du Pérou indien, du Pérou rural, du Pérou paysan, d'où... pays de la pauvreté et de la misère et de la margination. C'est-à-dire que j'ignorais tout du pays violent, hein, plein d'antagonismes et de rivalités qui était aussi le Pérou. J'ai découvert tout ça au collège militaire. Parce que Leoncio Prado était un collège très particulier au Pérou. C'était un collège où pratiquement toutes les classes sociales étaient représentées. Hein. Bien sûr, chaque garçon apportait à cet milieu, disons, concentrationnaire, les préjugés, les stéréotypes, les ressentiments, n'est-ce pas, de son milieu. Et ça donnait à l'atmosphère du collège militaire, n'est-ce pas, quelque chose de très violent et très... Pour moi, ça a été un choc au début. J'ai vécu des semaines et des mois très difficiles. Mais j'ai appris la vérité, n'est-ce pas, sur le Pérou et aussi sur la vie. Hein. Je crois que dans ce sens-là, hein, mon père m'a fait plutôt un bien. Il avait pensé que l'expérience militaire me guérirait de mes velléités littéraires. C'est le contraire qui s'est passé. Jamais je n'ai lu autant de littérature que pendant ces 2 années. Et c'est à cette époque que j'ai commencé à écrire, d'ailleurs.
Oui, et en fait, votre premier livre, « La vie et les chiens », donc publié en
1962,
prend comme toile de fond ce collège.
Exactement.
Et la publication du livre suscite d'ailleurs une réaction très violente de la part des autorités péruviennes.
Et surtout des autorités militaires. Le livre a été brûlé au collège militaire dans une cérémonie. Plusieurs centaines d'exemplaires ont brûlé dans cet acte inquisitoriel. Mais, et ça je crois c'est très indicatif hein, de ce qui était pour les régimes militaires de l'époque, la dictature d'Odria, la culture. Ils ont brûlé les livres mais ils ne l'ont pas interdit. Alors le résultat a été que le livre est devenu très populaire, un best-seller au Pérou. À ma grande surprise, hein, et je crois qu'à la surprise de mon éditeur aussi.
C'est là que vous découvrez effectivement la littérature, notamment Victor Hugo.
Non, j'ai commencé à lire dès que j'étais très très jeune. J'ai appris à lire quand j'avais 5 ans. Et j'ai dit toujours que c'est la chose la plus importante qui m'est arrivée, d'apprendre à lire. Je me souviens encore cet élargissement extraordinaire du monde, de la vie, qui a été pour moi la lecture des livres d'aventure. Quand je suis entré au Leoncio Prado, j'avais déjà beaucoup lu
les
livres d'aventure.
Même Victor Hugo.
Mais Victor Hugo, je l'ai lu au Leoncio Prado. J'ai lu Les Misérables. Ça a été une de mes très grandes expériences comme lecteur. J'ai dévoré ces romans-là. D'ailleurs, j'ai lu beaucoup à l'époque les grands écrivains enfin français du 19e siècle, n'est-ce pas? J'avais commencé avec Jules Verne, après avec Alexandre Dumas qui a été aussi un auteur de chevet pour moi pendant mon enfance. Les Trois Mousquetaires, je me souviens, hein, éblouissement qui était pour moi la lecture de Les Trois Mousquetaires et toute la série, n'est-ce pas, jusqu'à la fin du Visconde de Bragelonne. Mais Les Misérables, je crois que ça a été probablement la plus grande impression que j'ai eue comme lecteur quand j'étais interne dans le Leoncio Prado.
Si grande que vous publiez bien des années après, en 82, une préface à l'édition espagnole Les Misérables.
Oui. Un éditeur espagnol qui avait commandé une nouvelle traduction de Les Misérables m'a demandé en préface. Alors, avec beaucoup de peur, j'ai relu Les Misérables. Je ne l'avais pas relu depuis mon enfance. Et j'avais peur que cette impression, enfin si extraordinaire, s'appauvrit dans la lecture. Mais pas du tout, j'ai découvert, au contraire, que Les Misérables était un de ces rares livres qui peuvent être lus par un enfant, par un lecteur, disons, moyen, qui cherche seulement à s'amuser, et aussi par un lecteur très exigeant et par un critique très sévère, parce que le livre est d'une richesse, n'est-ce pas, extraordinaire. J'étais très impressionné surtout par l'ambition, hein, l'ambition extraordinaire du livre, et aussi par l'effet que le livre est une espèce de représentation de son époque. Tout ce qu'on lisait, tout ce qu'on croyait, tout ce qu'on rêvait, tout ce qu'on faisait, et aussi la vie entière de Victor Hugo. Hein, parce qu'il faut se souvenir que Les Misérables, c'est le seul livre auquel Victor Hugo, qui suivait l'inspiration et faisait des livres dans quelques jours, dans quelques semaines, a consacré presque 30 ans de sa vie. Non ?
Alors on passe quelques années, on abandonne, peut-être pas complètement d'ailleurs Victor Hugo, vous devenez journaliste à la Crónica, qui est un organe de presse à sensation. Vous courez de commissariat en barlouche, à la recherche de drames, de faits divers tragiques, que vous allez d'ailleurs réécrire pour vos lecteurs. Au fond, là, vous êtes déjà en pleine mystification littéraire. avec ce métier de chroniqueur.
Oui, c'est-à-dire que j'ai eu comme plusieurs gens qui découvraient, n'est-ce pas, en eux une vocation littéraire. La difficulté du choix d'une carrière. Hein. Si on aime la littérature, comment gagner sa vie, hein? Voilà, ça c'était très angoissant, n'est-ce pas? C'était impensable de gagner sa vie en écrivant. Hein? Alors j'ai cherché, j'ai dit un jour, bon, enfin, je serai avocat, je serai professeur. Et c'est comme ça que je suis arrivé au journalisme. D'abord, j'ai travaillé comme apprenti, n'est-ce pas, journaliste, dans La Chronica, qui était un journal à sensation. Et après, quoi que j'étudiais, droit et humanité en même temps, j'ai continué à faire du journalisme. Et pratiquement, j'ai fait du journalisme toute ma vie.
Et ce journalisme-là, c'était un journalisme de faits divers, de
celui-là, du début.
Oui.
Oui, j'étais un reporter, n'est-ce pas? J'étais un reporter, j'ai commencé en faisant, les faits divers. Après, j'ai fait aussi un passage par la chronique policière. Et j'ai fait aussi, les sports. Après, je crois que j'ai passé par toutes les sections d'un journal, sauf la chronique sociale. Ça, je n'ai jamais fait. Mais j'ai fait les nouvelles internationales, j'ai fait la page d'opinion, j'ai fait les titres. Je dois dire que le journalisme a été pour moi, comme écrivain, une source extraordinaire d'expérience. Je n'aurais pas pu écrire des livres comme mon roman, par exemple, Conversation à la cathédrale, sans la diversité des milieux, d'ambiances que j'ai pu fréquenter comme journaliste.
Alors justement, parlons de vos fréquentations de l'époque. Il y a les fréquentations liées au journal, mais aussi certains cercles marxistes que vous commencez à côtoyer. Et c'est de cette époque, je crois, que vous conservez un surnom. Enfin, on vous appelait à l'époque le vaillant petit Sartre.
Alors, c'est ça, c'est quoi, un jeu de mots qui est intraduisible en français. Et El Sastrecillo Valiente, c'est un personnage très populaire pour les gens dans tout le monde de langue espagnole. Et alors, on me disait El Sastrecillo, El Sartrecillo, en jouant avec ces deux mots-là. Et on me disait ça parce que j'avais découvert Sartre dans la dernière année à l'école. Et ça a été une espèce de coup de foudre, hein. J'étais immédiatement séduit, n'est-ce pas, par l'intelligence de Sartre. Et je l'ai lu voracement pendant mes années à l'université. Je crois que j'ai été très influencé par ses idées sur la littérature, sur les rôles de l'écrivain dans la société, et aussi par la responsabilité de l'écrivain vis-à-vis de son temps et de ses contemporains. Je savais presque par cœur ce qu'était la présentation de l'État moderne, par exemple, où on défendait cette idée que les mots étaient des actes, et qu'à travers les mots, on pouvait vraiment changer la vie, influencer l'histoire. J'ai cru à tout ça d'une façon très fervente, et ça m'a beaucoup aidé au début. Je crois que, d'abord, mon premier roman, La ville et les champs, reflète d'une façon très visible, n'est-ce pas, c'est l'influence des idées de Sartre sur l'engagement et sur la responsabilité morale de la littérature vis-à-vis de l'histoire. Mais ce n'était pas seulement Sartre. J'étais infecté, si je peux dire ça, pour la littérature française. Je l'avais découvert à travers Dumas et Victor Hugo, mais après, j'ai lu la littérature française avec un enthousiasme. Je me suis mis à apprendre français, le français. Et en 1953, 1954, j'ai commencé déjà à lire les écrivains français en français, ce qui a été aussi un autre élargissement de mes horizons, disons, culturels. Et depuis lors, j'ai rêvé avec arriver un jour en France.
En 58, vous avez publié un recueil d'histoires courtes qui s'appelait Los Refes, les chefs. Ces histoires avaient tout un thème commun, qui était la lutte pour la vie dans un quartier pauvre de Lima ou de Piura. Est-ce que vous pensez que ce thème est encore valable aujourd'hui?
Oh, vous savez, je crois que tous les thèmes sont valables. Je crois qu'il n'y a pas de thèmes qui soient plus littéraires que d'autres. C'est la forme, n'est-ce pas, qui enrichit ou appauvrit un thème. Et n'importe quel thème, même les thèmes apparemment les plus banals et superficiels, peut vous mener, n'est-ce pas, jusqu'au centre des grands problèmes.
Mais est-ce que vous pensez que cette lutte pour la vie, ce thème-là, vous le traiteriez de la même façon aujourd'hui?
Ah non, ça c'est différent. Ça c'est différent. Depuis lors, j'ai beaucoup vu, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup vécu. Alors, tout ça m'a changé, n'est-ce pas, comme écrivain. J'essayais d'écrire cette histoire maintenant, je les écrirais certainement d'une façon très différente. Mais cette histoire, je crois, exprime assez bien ce que j'étais à l'époque. J'étais quelqu'un qui était fasciné par les romanciers, disons, contemporains et épiques. Par exemple, Hemingway, par exemple, Malraux. Ce sont des écrivains que je voulais, enfin, émuler, hein, des écrivains qui décrivaient dans leurs romans des vies extraordinaires, mais qui étaient ancrés dans la réalité. Moi, comme écrivain, ce que je voulais être, c'était un écrivain, disons, réaliste, entre guillemets, mais qui racontait dans la réalité ce qu'il y avait en elle d'extraordinaire, d'insolite. C'est ce genre de personnage qui est capable d'aller, à force de conviction, de courage, au-delà de ses limites. Hein.
Alors, on a compris, il y a chez vous une fascination pour la France dans ces années-là, et elle est telle que vous allez même jusqu'à vous inscrire à un concours d'histoires courtes qui est organisé par la Revue Française, et le premier prix du concours, c'est un voyage à Paris.
Oui, ça a été un des jours les plus heureux de ma vie, les jours où j'ai su que j'avais gagné ces concours, avec un des histoires de l'Écaïd, d'ailleurs, et dont le prix était de passer 2 semaines à Paris, à l'hôtel Napoléon. Alors c'est comme ça que je suis venu en France, en janvier 1958, et j'ai passé un mois à Paris, ce qui était pour moi vraiment une expérience formidable. J'ai beaucoup vu, j'ai parcouru, n'est-ce pas, les galeries, les musées, les théâtres, et j'ai pu comparer, n'est-ce pas, les mythes avec la réalité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la réalité ne m'a pas déçu, au contraire, la réalité était presque à l'auteur du mythe, hein. Alors, je suis rentré au Pérou avec l'idée de revenir en France, ce que j'ai pu faire finalement une année et demie après.
Et dans quelles circonstances?
J'avais gagné une bourse pour faire un doctorat à l'Université de Madrid quand j'ai fini l'université à Lima. Alors, je suis venu à Madrid, j'ai fait les doctorats là-bas. Et à la fin de l'année, j'ai eu le choix de rentrer à Lima, parce que j'avais les billets, j'avais l'argent pour rentrer, c'était parti de la bourse, ou rester en Europe. Et alors, avec cet argent-là, je suis venu à Paris et j'ai commencé à chercher du travail immédiatement. Finalement, j'ai trouvé du travail, d'abord comme professeur d'espagnol à l'école Berlitz, après à l'agence France Presse comme journaliste, et finalement comme journaliste à la radio-télévision française, où je suis resté presque 6 ans.
Alors, on parle beaucoup depuis le début de cet entretien de votre vie. Et j'aimerais savoir quelle est la place de l'autobiographie dans votre œuvre. Je pense notamment à une phrase de Flaubert, Il faut s'habituer à ne voir dans les gens qui nous entourent que des livres.
C'est-à-dire, cette phrase de Flaubert, je crois qu'elle est très exacte dans le sens qu'un écrivain a ses matières premières pour écrire dans sa propre vie. C'est ça la source, n'est-ce pas, de la fantaisie. Hein. Je crois que la fantaisie pure n'existe pas, qu'elle a des racines, n'est-ce pas, très profondes dans l'expérience quotidienne, et que tous les écrivains, parfois sans le savoir, mais utilisent, n'est-ce pas, ces souvenirs, ces obsessions, c'est-à-dire cette expérience vitale qui est la source de toute littérature. Cela ne veut pas dire qu'un roman ou qu'une pièce de théâtre, dans mon cas, n'est qu'une autobiographie dissimulée. Pas du tout. Je crois que l'autobiographie est une racine, n'est-ce pas, est un bon point de départ. Et sur ça, la fantaisie, l'imagination construit beaucoup. Hein. Parfois des choses qui vont très très loin, n'est-ce pas, de cette origine autobiographique. Mais dans mon cas, oui, les points de départ de tout ce que j'écris, c'est quelque chose qui m'est arrivé, quelqu'un que j'ai connu, quelque chose que j'ai lu ou entendu, qui a laissé une impression très forte dans ma mémoire. C'est toujours quelque chose qui m'est arrivé qui est à l'origine de tout ce que j'écris.
Mario Vargas Llosa s'entretenait avec Gérard de Cortanze, réalisation Jeanne Castel. Demain, deuxième entretien.